Et il est temps de retrouver Marion pour une nouvelle et dernière chronique culture par chez nous. Marion, bonjour.
Salut Rodolphe.
Chaque mercredi de l'été, Haute-Corrèze Communauté et Radio Vassivière vous ont fait découvrir des trésors de notre territoire, des sites, des événements, des initiatives culturelles ou encore des associations qui font vibrer la Haute-Corrèze et que nous souhaitions partager avec vous. Pour cette dernière chronique culture par chez nous, Marion, nous finissons comme nous avons commencé en parlant randonnée et plaisir de s'évader.
Et oui Rodolphe, aujourd'hui nous sommes sac au dos et bonnes chaussures de rando. Nous sommes plaisir d'une bonne suée et délice de se poser. Nous sommes les pieds sur les sentiers et les yeux perdus dans les gorges de la Haute Dordogne. Nous sommes sur l'itinéraire d'un sentier de 200 km qui part de Conflans-Port-Dieu et se termine à Argentat-sur-Dordogne. Un sentier de randonnée créé en 2013 et entretenu par l'association La Dordogne de Village en Barrage. Nous gagnons le village de Spontour. Là où le sentier s'approche au plus près de la Dordogne avant de remonter, comme pour prendre du recul et nous en mettre plein la vue.
On se situe donc à peu près à 130 km de Conflans-Port-Dieu et à 62 km d'Argentat. Voilà, sur un chemin qui est balisé blanc et jaune, hein, la Dordogne de Village en Barrage. Ici on est sur la route des morts, hein, qui permettait... Lorsque Spontour n'avait pas son église ni son cimetière, permettait aux gens du village d'être enterrés là-haut à Soursac, la commune de référence, quoi, hein, puisque Spontour n'est qu'un hameau. On regarde la géographie des lieux, en fait, il y a beaucoup d'endroits quand même un peu plats, hein, et c'était toutes des pâtures ici, hein, par palier, hein, par terrasse, mais il y avait de la pâture. Et, le chemin constitué, puisqu'il y a un mur en pierre sèche, là, hein. Voilà, le chemin est en partie fermé par des pierres qui sont écroulées du mur. Sinon, un char à bœuf y montait, là. Et là, la croix. La croix, elle est là-haut, dans l'éclaircie que l'on voit. Hein, donc, il y a une dernière montée, un dernier raidillon, mais bon, qui se fait bien. Hein. En fait, dans tous les chemins de montée, comme ça, le plus dur, c'est la descente. Hein. Il faut faire très attention de ne pas glisser. Alors là, il nous faut 10 minutes pour monter.
Sur un petit sentier pentu bordé d'un muret de pierre, perdu dans une forêt de feuillus, nous suivons, ou plutôt nous tentons de suivre avec notre micro, Jean-Pierre Pose, bénévole retraité hyper dynamique et très investi dans l'association La Dordogne de Village en Barrage. Nous sommes venus le rencontrer pour qu'il nous parle du sentier et de son travail de bénévole sur ce sentier. Le souffle court, l'ascension en cours, nous économisons plutôt nos mots.
Là, c'est la plus jolie vue du village, bien entendu, hein, puisqu'on est au plus haut. Hein. On doit être à 450 mètres, là, à peu près. Donc, et on a démarré à 263 mètres.
Moment magique, suspendu au-dessus de la vallée de la Dordogne. Sous nos yeux, une gorge profonde, sinueuse, majestueuse se dessine. Au creux, coule la rivière, presque aussi tranquille qu'un lac, fruit des barrages qui la retiennent. Les arbres, feuillus surtout et résineux parfois, couvrent les flancs pentus, chênes, châtaigniers, frênes et tilleuls se reflètent dans cette eau indolente. Là-bas, de l'autre côté, le Cantal. À nos pieds, le village de Spontour qui s'étend autour de son clocher, au bord de l'eau.
Petit village de 47 âmes l'hiver et un petit peu plus l'été quand les vacanciers sont là.
Jean-Pierre tente de nous faire imaginer la vallée avant, à la fin du siècle dernier, quand le train et la route n'avaient pas encore remplacé les gabarres de la Dordogne, quand les barrages ne s'étaient pas encore dressés, quand les chèvres partout paissaient, lorsque Spontour était le village des gabariers, d'où partait le bois amené par les voies d'eau vers Bordeaux pour servir à la fabrication des tonneaux.
Du temps des gabarres, donc ces bois-là étaient tout coupés. Soit pour le vignoble du Bordelais, c'est-à-dire chênes et châtaigniers, le reste pour le charbon de bois. Spontour était un petit hameau de pêcheurs à l'époque, hein, puisque les gabariers, c'était des inscrits maritimes en plus. Hein, donc ils avaient leur billet en quelque sorte. Et on appartenait à la commune de Soursac, sur le plateau, à 9 km. Les uns, ce sont des pêcheurs en bas, et en haut, ce sont des agriculteurs. Et un ancien du village me disait, lorsqu'il lançait l'épervier, il pouvait en une heure se faire le salaire d'un agriculteur qui trimait entre 10 et 12 heures là-haut sur le plateau.
Tout en redescendant d'un pas sportif, Jean-Pierre nous explique les essences d'arbres que l'on croise aujourd'hui dans cette forêt qui a repris ses droits, avec la fin des pâturages et de l'exploitation du bois.
l'arbre a retrouvé un petit peu sa place, hein. Il y a des hêtres, il y a des chênes et des châtaigniers. Ce qui n'existait plus du temps des gabarres, puisque tout avait été coupé, hein. Le hêtre, je suppose que c'était pour le charbon de bois, et le chêne et le châtaignier, bien entendu, pour les vignes et pour le vignoble, hein. À la fois pour la tonnellerie et pour les piquets de vignes. Le châtaignier a cette particularité, c'est qu'il peut être planté dans un sol et sa vie, sa survie est garantie 20-25 ans. Hein. Il ne pourrit pas. Toutes les clôtures à l'époque étaient faites en piquets de châtaignier. Hein. Et les châtaignes, bien sûr, servaient à faire de la farine, du pain, hein, et alimenter aussi l'animal. Ça, c'est un hêtre. Un petit truc pour reconnaître le hêtre du charme, parce qu'il y a des charmes aussi, hein. Alors il y a un petit truc très simple, c'est de dire le charme d'Adam, c'est d'être à poil. C'est-à-dire que le charme, ses feuilles ont des dents, donc le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Lui, le hêtre, sa petite feuille est pleine de petits poils. C'est ainsi que l'on peut reconnaître le charme du hêtre.
Jean-Pierre nous invite à écouter les oiseaux.
Quand on passe près de la citelle torche-peau, Elle pousse des tuites. Pour ça qu'on dit que c'est l'oiseau le plus moderne actuellement. C'est qu'il tuite. Dès qu'on rentre dans son territoire, notre présence est signalée.
Tandis que l'on regagne le village de Spontour, Jean-Pierre nous parle de son expérience de bénévole pour l'association La Dordogne de Village en Barrage. C'est lui qui veille au bon entretien du sentier qui passe sur la commune de Soursac, à laquelle est rattaché le village de Spontour. Un sacré boulot auquel il associe parfois son épouse.
Lorsqu'on est bénévole sur un sentier comme la Dordogne de Village en Barrage, hein, où des communes comme Soursac sont très impactées, 35 km en moyenne, hein, sur ce sentier, le travail des bénévoles, eh bien, c'est de ramasser sur les chemins tous les obstacles, de couper les arbres, la tronçonneuse en bandoulière, parce qu'il y a des endroits inaccessibles en voiture et voire même en moto. Hein. Donc voilà, le travail du bénévole, ce n'est pas seulement du balisage, c'est aussi du nettoyage, hein, avec la rotophile, la tronçonneuse. Voilà, on fait ça régulièrement, hein. À chaque changement de saison, entre autres, hein. Et le printemps, bien sûr, particulièrement, et l'été, là où il faut couper fougères, ronces, qui poussent à vitesse grand V. Hein.
On croise une grosse branche tombée tout près du sentier. L'occasion d'un petit cours pratique sur la manière d'entretenir un sentier.
Eh bien, je vais prendre la tronçonneuse à bras-le-corps et je vais venir ici avec, hein, et dégager les morceaux de bois pour les mettre le long du chemin, comme on le voit ailleurs, hein. Voilà, comme ça, il n'y aura même pas besoin de balisage, le chemin, il n'y aura qu'à suivre les morceaux de bois.
Jean-Pierre appartient ainsi à une équipe de bénévoles qui s'active énergiquement toute l'année, le long des 200 km du sentier balisé, pour le rendre toujours praticable, sécurisé et agréable.
On a quand même une belle équipe de bénévoles qui est sur le terrain quotidiennement, quasiment, qui est répartie sur tout le sentier, entre Confolens et Argentat. On a plein de petites fourmis là, qui s'activent sur le sentier et qui nettoient. Dès qu'il y a un arbre qui tombe, on m'appelle. Et, voilà, on prévient les communes, mais souvent, les bénévoles quand même interviennent voilà, quand c'est des choses qui sont faisables assez facilement. On a les bénévoles qui interviennent rapidement dans la journée ou dans la semaine pour nettoyer la partie du chemin qui est encombrée. On a à peu près une vingtaine de bénévoles actifs sur le chemin. Alors là, je parle vraiment de ceux qui sont très actifs et qui sont sur le chemin quasi quotidiennement ou de manière hebdomadaire. Et après, on a une belle équipe également de personnes qui veillent sur le sentier et qui nous préviennent quand il y a des soucis.
Pour en savoir plus sur cet itinéraire, la Dordogne de Village en Barrage, nous avons pris congé de Jean-Pierre et nous sommes partis rencontrer Annabelle Millot, animatrice de l'association Dordogne de Village en Barrage. On retrouve chez Annabelle le même enthousiasme que chez Jean-Pierre lorsqu'elle nous parle de cet itinéraire de randonnée qu'elle porte, anime et fait grandir.
C'est 200 km de bonheur le long de la Dordogne en rive droite, donc uniquement sur la partie corrézienne. Donc on attaque à Confolens-Port-Dieu, là où la Dordogne rentre sur le territoire corrézien, et on chemine jusqu'à Argentat-sur-Dordogne pour finir sur les quais d'Argentat, après 200 km de douleur, mais de beauté quand même.
Site de Port-Dieu, du Mont, de la Vie, des Orgues, de Saint-Nazaire, où la Diège se jette dans la Dordogne, de Gratte-Bruyère, de Spontour, du Roc du Chien. Plus d'une dizaine de points de vue, tous plus saisissants les uns que les autres, ponctuent cette belle rando aux paysages variés.
On est beaucoup sur les plateaux, on descend dans les gorges par des chemins boisés, beaucoup de chemins de chèvres qu'on appelle. On passe de pistes en sentiers, on traverse des villages, on voit beaucoup de patrimoine bâti, des séchoirs à châtaignes, des vieilles églises, du patrimoine vernaculaire corrézien typique de la vallée.
Mais d'où est venue l'idée de ce sentier longeant le fil des eaux de la Dordogne ?
À l'origine de ce magnifique chemin, il y a Jean-Marc Chirier, qui est un habitant corrézien de la vallée. L'idée est venue quand il était premier adjoint à Gros-Chastang, et il s'est dit, mais cette vallée, voilà, on fait du kayak dessus, il y a des gens qui la suivent en moto, en camping-car, et il a dit, mais il faut absolument qu'on réouvre des chemins pour suivre. Il y avait les gabariers, enfin, ils remontaient la vallée, donc on doit pouvoir retrouver des chemins. Et là, il est rentré en contact avec à l'époque, il y avait 16 communes, il y en a 19 aujourd'hui, puisqu'on a rallongé un petit peu le chemin l'année dernière. Et donc, il a contacté les 16 communes concernées par un tronçon du sentier, qui allait devenir le sentier. Et les 16 communes ont répondu présentes à la première réunion d'information. Puis voilà, l'aventure était partie. Et chaque commune, on a demandé à chaque commune de fournir un tronçon de randonnée sur son territoire. Et le conseil était de se lier avec la commune d'avant et la commune d'après pour pouvoir faire un itinéraire linéaire à la fin. Et ça a fonctionné à merveille. Ça a été vraiment, les communes ont été vraiment grandes parties prenantes et très volontaires pour ouvrir le chemin.
Jean-Marc Chirier et toutes les communes qui l'ont suivi ne s'y sont pas trompées. Leur pari a réussi. Le sentier plaît aux randonneurs et attire du monde. Pas seulement l'été, mais aussi au printemps et à l'automne. Lorsque la vallée s'enveloppe d'étonnantes couleurs mordorées, une bouffée d'air pur après cette période confinée.
On estime à peu près à 2000 pratiquants alors sur l'intégrale du sentier par partie. Et on pense qu'il y a environ 400 personnes qui l'ont fait en intégralité l'année dernière. Mais c'est difficilement quantifiable parce qu'il y a tous ceux qui le font en bivouac. Alors cette année, c'est la grande nouveauté. On a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont partis le faire en bivouac avec sac de couchage, hamac, tente. On en avait peu l'année dernière. Et cette année, on a eu pas mal de retours de personnes qui l'ont fait comme ça.
Ça y est, je me sens prête. Je vais tenter de me trouver une petite semaine de congé et je vais m'en aller l'explorer, cet itinéraire dans la vallée de la Dordogne, de village en barrage. Mais par où commencer pour me préparer ? Qu'est-ce qu'il est indispensable que j'emmène ?
Alors, tout dépend si tu pars pour une journée ou pour 10 jours, c'est la différence. Parce que le sentier se fait en moyenne en 10 jours si on veut le faire en intégrale, mais il y a des gens qui le font en une journée, 2 journées, c'est très variable. Donc après, si tu veux partir pour l'itinérance complète, alors il est conseillé de partir avec le topo guide, on peut le trouver dans tous les OT de Haute-Corrèze Communauté, auprès de l'association également. Mais le topo guide qui reprend tout le pas à pas, qui explique bien tout pour si jamais il y a un souci de balisage, ce qui peut arriver, s'il y a des arbres qui tombent, des choses comme ça, c'est quand même bien d'avoir le topo guide avec soi, même s'il n'est pas indispensable. Et ensuite, si on va dans les hébergements, il est bien d'avoir un sac de couchage, penser à l'eau, parce qu'on on croise pas toujours des villages pour se ravitailler en eau, donc il faut penser à prendre de l'eau. Et puis des bonnes chaussures, une bonne paire de chaussures quand même, et des bâtons, parce que c'est un sentier qui est sportif, faut pas le négliger. Il y a pas loin de 8000 mètres de dénivelé positif sur l'intégrale, donc voilà, c'est une belle ascension sur les 10 jours, si on cumule le dénivelé positif.
Ah ouais, quand même 8000 mètres de dénivelé en 10 jours. C'est que je suis vraiment obligée de prendre ma tente et toute ma nourriture comme les bivouaqueurs de cet été, où il y a d'autres moyens pour dormir et manger.
On a 35 hébergements partenaires entre Confolens et Argentat. Et donc tout est présent sur notre site internet. Et ensuite, les randonneurs souvent me contactent. Je les aide en fait à créer leur séjour sur mesure. Ils me disent, on veut le faire en 8 jours par exemple. Donc je leur conseille des hébergements. Je leur dis, vous pouvez aller là, là ou là par exemple. On ne prend pas de réservation pour les hébergements. On n'a pas la compétence pour ça. Mais on conseille tout, on leur donne toutes les informations. Les gens réservent d'eux-mêmes. Et ensuite, on prévoit les étapes en fonction des hébergements pour arriver le soir dans un hébergement confortable où on peut manger un bon repas.
Ok, et si finalement je décide d'opter pour le mode bivouac, plaisir d'une semaine en pleine immersion nature dans des paysages enivrants?
On a des hébergeurs qui proposent en fait que les gens posent leur tente parfois gratuitement sur leur terrain, des agriculteurs. On a pas mal d'endroits à indiquer aux personnes qui veulent le faire en bivouac. On essaye de les renseigner au mieux. Il y a très peu d'hôtels. Les hébergements, c'est très varié, mais on a beaucoup de partenariats avec les campings. Alors, on a fait avec ce qui existait sur le territoire, parce que c'est un territoire qui est quand même assez touristique, mais on n'a pas non plus pléthore d'hébergements. Donc, on travaille beaucoup avec soit des refuges communaux ou des hébergements communaux. Et c'est des petits chalets à Lignac, par exemple. C'est 10 euros la nuit dans des petits chalets en bois au camping. Nous, on loue un pod aussi de Saint-Nazaire. C'est un petit hébergement insolite, arrondi, que les gens peuvent voir au niveau du site de Saint-Nazaire. Et voilà, c'est 12 euros la nuit, et c'est vrai que ça reste une alternative. Les gens qui le font en bivouac, souvent, bah, ils nous louent le pod parce que c'est la quatrième étape, Donc, bah, au bout de 3-4 jours, comme ça leur permet de manger chaud et de prendre une douche. Et après, ils font pareil. 4 jours plus tard, ils louent dans un camping 10 euros un petit chalet en bois, ce qui est très simple, mais c'est pas mal pour les randonneurs.
Annabelle me rappelle aussi que si j'opte pour le bivouac, il ne faut surtout pas faire de feu de camp dans la vallée, mais plutôt penser à emmener son réchaud. Pour le ravitaillement en eau, ne pas hésiter à aller voir les habitants qui sont dans leur jardin pour faire remplir sa gourde. En demandant poliment, évidemment. Et pour la nourriture,
il faut faire très attention parce qu'il y a plusieurs endroits où parfois pendant 3 jours, vous n'allez pas croiser de commerce. Donc on est vraiment sur un sentier sauvage. C'est magnifique, vous êtes au milieu de la nature. Mais voilà, c'est à contrario, ben on peut pas trouver forcément de nourriture partout. Donc il faut, si vous n'avez pas réservé votre restauration chez les hébergeurs qu'ils proposent tous, il faut penser à faire un petit peu de réserve et emmener... voilà, des petites pâtes sèches ou des soupes dans le sac à dos parce que vous ne pourrez pas faire des courses tous les jours. Hein.
Je sens l'envie de nature et d'aventure qui grandit à mesure qu'Annabelle explique comment s'engager en mode itinérance sur ce sentier. Le soleil brille, l'arrière-saison s'annonce radieuse sur les bords de la Dordogne. Il n'y a plus qu'à se laisser tenter. Jean-Paul et tous les bénévoles de l'association ont préparé le sentier. Annabelle est à notre écoute pour nous accompagner et nous guider. Pour une rando à la journée, ou une itinérance de quelques jours en bivouac, ou bien hébergé. Allez, pour vous préparer à cette rando, vous retrouverez toutes les infos sur le site internet la Dordogne de Village en Barrage, toutattaché.com. Et le topo guide de l'itinéraire vous attend dans les offices de tourisme du territoire. Sur la page Facebook de l'association, guettez aussi les randos organisés par l'asso, des aperçus de l'itinéraire en toute convivialité. Et puis comme d'habitude avec Rodolphe, nous vous mettons tous les liens nécessaires aux côtés de l'émission à réécouter sur les sites internet de Radio Vassivière et de Haute Corrèze Communauté. Rodolphe, c'était notre dernier voyage de l'été. Merci à toi et à Radio Vassivière de m'avoir accompagné avec ton micro et ta patience au fil de ces 15 chroniques.
Mais merci à toi Marion pour ta détermination et ta curiosité.
Merci à tous les acteurs du territoire de s'être prêtés au jeu et surtout de mettre chaque jour tant d'énergie et d'enthousiasme à faire vibrer et à partager ce qui rend ce territoire de la Haute-Corrèze si beau et si attachant.
Mais dis-moi Marion, nous nous retrouvons en octobre avec une nouvelle émission au format complètement différent.
Mais chut, nous ne vous en dirons pas plus pour le moment.
En attendant de se retrouver, la musique de la fin. Marion, qu'as-tu choisi pour conclure cette chronique de fin d'été, dernière chronique culture par chez nous de cette saison ?
Une chanson qui parle d'un automne où il fait beau, où l'on marche sur un sentier un peu comme celui-ci. Les yeux perdus dans une vallée qui peu à peu revêt son manteau mordoré. Une saison qui peut-être n'existerait pas que dans le nord de l'Amérique, mais chez nous aussi.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
S'aimera encore lorsque l'amour sera mort.